On pourrait lire dans l'évangile de Marc, quelques versets sur les circonstances que le Seigneur fait traverser aux siens. Marc 14. Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix, et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns étaient là, qui s'indignaient en eux-mêmes, et disaient, « À quoi bon la perte de ce parfum ? Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers, et être donné aux pauvres. » Et il la reprenait vivement. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi, vous avez toujours les pauvres avec vous. Quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi vous ne m'avez pas toujours. » Verset 9, « En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. » Et Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour le leur livrer. Et ceux-ci, l'ayant entendu, s'en réjouirent. Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, des disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut, afin que tu manges la Pâque ?» Et il envoie deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit, « Où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. Et ses disciples s'en allèrent et entrèrent dans la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit et ils apprêtèrent la Pâque. Verset 27. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersé. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Et Pierre lui dit, « Si même tous étaient scandalisés, je ne serai pourtant pas moi. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre disait encore plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et ils dirent tous aussi la même chose. Et ils viennent en un lieu dont le nom était Gethsémané. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. Et il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean. Il commença à être saisi d'effroi et fort angoissé. Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici éveillé. » Et s'en allant un peu plus avant, il se jeta contre terre et il priait que, s'il était possible, l'heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Fais passer cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. » Et il vient et les trouve dormant. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla de nouveau, et il pria, disant les mêmes paroles. Et s'en étant retourné, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Et il vient pour la troisième fois et leur dit, « Dormez, dormez dorénavant, reposez-vous. Il suffit, leur est venu. Voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voilà. Voici ce qui celui qui me livre s'est approché. Verset 66. Et comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vient et apercevant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit, « Et toi, tu étais avec le Nazaréen Jésus ?» Et il le nia, disant, « Je ne sais ni entends ce que tu dis. » Et il sortit dehors dans le vestibule. Et le coq chanta. Et la servante, l'apercevant encore, se mit à dire à ceux qui étaient là, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car aussi tu es Galiléen. » Et il se mit à faire des imprécations et à jurer, et disant, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Le coq chanta pour la seconde fois. Nous lirons peut-être après quelques autres versets dans le chapitre 16. Dans les versets que j'ai lus, c'était plutôt ce qui concernait les disciples dans les circonstances qu'ils traversaient. Sur ces chapitres que nous connaissons bien, peut-être que nous parlons d'habitude plutôt de tout ce qui est arrivé au Seigneur et puis de toutes les choses très, très importantes comme la valeur du parfum répandu par Marie et puis l'établissement de la scène dans les versets 17 à 26 que nous n'avons pas lus. Mais, et puis le détail sur la scène de Gethsémané dans les versets 32 à 42. Mais j'aurais à cœur de souligner ce que au travers de circonstances qui étaient d'une importance majeure, puisqu'il s'agit de toute l'œuvre de la croix qui était en train de se préparer, il s'agissait du Seigneur allant à la croix et de ce que ça représentait même pour Dieu. Et au travers de tout cela, voilà les disciples au fond qui, d'un côté, ils n'ont rien saisi, rien compris, et c'était normal qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix qui était en train de se faire et le sacrifice du Seigneur et toute l'œuvre de la rédemption. D'une part, les choses n'étaient pas accomplies, la pensée de la résurrection n'était pas saisie, le Saint-Esprit n'était pas venu, et l'Église n'avait pas commencé. Donc, il y a tout un côté qui est normal de ce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Mais, au travers, il n'en reste pas moins, qu'au travers des circonstances qu'ils passaient, on peut passer ces circonstances de soit en étant très exercé, en recherchant ce que le Seigneur veut nous montrer, en recherchant pourquoi il nous fait passer par ces circonstances et puis qu'est-ce qu'il y a pour lui. Et puis on peut passer à la légère en s'occupant de soi. Alors dans la première scène, on dit des fois dans la maison de Béthanie, c'était pas la maison de Béthanie, puis c'était la maison de Simon le lépreux. Était à Béthanie, mais c'était pas du tout la maison. Et alors, voilà, Marie, il dit là simplement une femme, c'est parce que c'est l'attention l'intention n'était pas d'attirer l'attention sur Marie, mais sur ce qu'elle a fait, alors quelques-uns étaient là qui s'indignaient en eux-mêmes et qui disaient à quoi bon la perte. Quand on lit c'est l'évangile de Jean, on s'aperçoit que en fait, au départ, il n'y a que Judas qui a dit cela. Il l'a dit. Et ensuite, on voit la propagation, verset 4, de quelques-uns étaient là qui s'indignaient en eux-mêmes. Mais ils s'indignaient en eux-mêmes et puis après ils le disent carrément. Alors, la perversion de Judas est bien connue et puis on l'a lu dans les versets 10 à 11 où on le voit s'en aller pour livrer le Seigneur et puis voir être avec ceux qui se réjouissent d'avoir de l'argent pour que le Seigneur soit livré. Mais on a cette situation étonnante où il y avait dans cette maison de Simon le lépreux, ben, il y avait quand même bien passablement de gens, puisqu'il y avait Simon, il y avait Marthe et Marie, Lazare, tous les disciples, le Seigneur, il était bien une quinzaine, et on voit un qui est mauvais, et puis qui glisse juste une phrase, à quoi bon la perte de ce parfum, et puis il rajoute quelques phrases qui ont une belle apparence en disant mais on aurait pu utiliser ces 300 deniers pour autre chose quoi. Et on voit la contamination où après pratiquement tous non seulement lui disent la même chose, mais en plus de ça ils font le reproche, et un reproche vivement. Alors on voit, bien sûr, là, le problème, ce n'était pas tellement de comprendre ce que faisait Marie. Marie, elle l'avait saisi, elle se rendait compte du Seigneur qui était rejeté, elle se rendait compte que les circonstances s'aggravaient, que tout le monde était contre lui et que ça allait mal tourner. Elle, même si elle ne comprenait pas toute la rédemption, elle comprenait cela. Mais on voit les autres qui, au fond, passent à côté complètement des circonstances, circonstances que le Seigneur a permises. Ils étaient là. Ils auraient dû être exercés quant au Seigneur, à ses intérêts, quant à ce qu'il lui demandait. Quant à ce que ses intérêts demandaient, mais on voit une dérive grave parce que on n'est pas occupé de l'important dans les circonstances que le Seigneur fait traverser. Alors j'ai lu les versets 12 à 16. Bon, on en parle peut-être souvent à propos de ce que la signification de la préparation de la Pâque. Mais le point que je désirais souligner là, c'était à quel point le Seigneur connaissait à l'avance tout le détail de ce qui allait se passer. Il connaissait pas les choses en gros. Il connaissait pas simplement que dans tel quartier de la ville il y aurait quelqu'un qui où on pourrait bien trouver une place. Non, il connaît tout le détail. Vous allez à la ville, vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau, vous le suivez, n'importe où qu'il entre. Vous demandez au propriétaire de la maison, il vous demande, le propriétaire vous fait une réponse dans tel sens, vous préparez à la suite de ce qu'il a dit, Et le verset 16 dit bien, extrait expressément, « Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. » Et ils apprêtèrent la Pâque. Alors, probablement que les disciples regardaient les choses simplement extérieurement. Ils se rendaient compte qu'il y avait la Pâque, il fallait la préparer, on avait l'habitude d'année en année. Le problème, c'était de trouver une pièce, les choses pour la Pâque, on allait pouvoir les acheter, puis on faisait la préparation. Mais quelle chose de se rendre compte que le Seigneur, qui était là dans son simplement un homme, et un homme dont les disciples ne se rendaient pas compte de toute sa gloire, ils avaient quand même vu tous les miracles qu'il faisait. Voilà, le Seigneur connaissant à l'avance tous les moindres détails de ce qui allait se passer. Alors, ce passage est à cet égard frappant, parce que on a à la fois l'humanité et la divinité du Seigneur. On a cette humanité où il est un homme, il est tout simple, il s'occupe, il dit comment il faut faire pour préparer un repas. Et d'un autre côté, il est au-dessus des circonstances, malgré qu'il est en train d'aller à la croix, malgré que les hommes vont en apparence avoir tout pouvoir sur lui et qu'il va se laisser faire, en réalité, il connaît tout, il contrôle tout. Et il contrôle tout dans les moindres détails. Alors ça, nous savons que le Seigneur s'occupe de nous, nous savons qu'il aime les siens, qu'il est à égard à nous, mais nous rendons souvent pas compte à quel point vraiment il connaît tous les détails. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser aller au fatalisme en disant de toute façon ça se passe comme le Seigneur veut et puis il n'y a pas besoin d'être exercé? Mais non, parce qu'on voit qu'il faut que tout se passe à sa gloire. Et alors justement, on voit dans la suite le Seigneur qui dit au verset 27, il dit aux disciples, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Alors, ce verset est étonnant parce que il est étonnant à plusieurs égards. Parce que d'abord, il s'agit de l'écriture, et que même on voit que dans ces circonstances pour le Seigneur, il fallait que l'écriture soit accomplie. Alors, quand on lit ce passage de Zacharie 13, du fait que nous connaissons l'application que le Seigneur a fait, alors on comprend un peu plus ce chapitre, mais si on prend ce chapitre tout seul, c'est pas évident qui concerne la crucifixion du Seigneur. Et puis ensuite on s'étonne comment ça se fait que Dieu permette une chose pareille, que le berger soit frappé et que les brebis soient dispersées. Et puis peut-être qu'on peut encore moins comprendre quand on se dit mais le Seigneur il prend soin des brebis, il sait que on a vu qu'il connaissait tout pour la préparation de la Pâque, puis maintenant il va laisser les brebis dispersées. Mais alors, on voit que dans toutes ces choses, à la fois il faut avoir la conviction du Seigneur qui conduit tout, qui sait tout, et puis même les circonstances que nous ne comprenons pas du tout et que nous ne pouvons pas comprendre, comme la dispersion des brebis, et en plus de ça, la dispersion des brebis annoncée par l'Écriture. on ne comprend pas des choses pareilles. Et peut-être que nous sommes justement dans un monde qui déraille complètement, dans, moralement. Dans, on comprend que nos frères qui sont dans la guerre, ils ne comprennent rien à ce qui se passe et à ce que Dieu permet. Mais on voit néanmoins ces choses demeurent, que le Seigneur sait et il permet des choses que nous ne comprenons pas. Et tout ce qui compte, au fond, c'est de tenir compte de sa parole et de ce qu'il nous dit. Et alors, on voit là justement, il est le Seigneur qui insiste sur l'importance de la parole, il est écrit. Donc s'il est écrit, ça va se passer et il faut en tenir compte. Et puis en plus de ça, le Seigneur leur donne une assurance extraordinaire au verset 28. Il dit « Après que je serai ressuscité ». Alors bon, déjà, il y a la notion qu'il va mourir, il y a la notion qu'il va ressusciter, donc la mort n'est pas tellement un sujet d'effroi, et puis qu'il ira devant nous, devant les disciples en Galilée, c'est-à-dire que toute cette atmosphère de méchants hommes de Jérusalem, eh bien, on va tout quitter ça, et on va se retrouver après avec le Seigneur, groupé autour de lui en Galilée. Donc, en tenant compte simplement des paroles du Seigneur, même il ne pouvait pas comprendre comment ça se faisait qu'il allait ressusciter, il ne pouvait pas comprendre comment ça se faisait qu'ils allaient retourner en Galilée. Mais le problème n'est pas de comprendre à l'avance les détails de ce qui se passe, l'important c'est de tenir compte de ce qu'il a dit. Et alors, voilà Pierre qui dit, mais non, si tous étaient scandalisés, moi je ne le saurais pas. Alors, on insiste souvent sur le fait que de sa confiance en lui, c'est vrai que ce n'était pas bien, qu'il était persuadé d'aimer plus le Seigneur que les autres. Alors, il y a aussi cette comparaison de lui-même par rapport aux autres, de ce qu'il était fier de son amour, tout ça. Et c'est vrai, on insiste là-dessus et on a raison. Mais le point qui est frappant, c'est que le Seigneur lui dit ce qui va se passer, je vais ressusciter, on va aller en Galilée, puis Pierre dit, mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, et moi je vais pas être dispersé, moi je te suis. Puis alors, dans la parole souligne que ici dans Marc, il a redit quelque chose. Alors le Seigneur renforce son avertissement, verset 30. Alors la première fois, au verset 28, il donne uniquement un encouragement. Je serai ressuscité et puis j'irai en Galilée. Bon, verset 30, comme il n'a pas écouté, il lui donne un avertissement. Il dit, mais attends, tu vas me renier, hein, tu vas me renier. Et au fond, on dira, mais pourquoi le Seigneur a permis que Pierre renie? Et c'est qu'il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Alors le Seigneur le laisse à lui-même et le laisse tomber. Alors, verset 31, Pierre renouvelle. Alors ce qui est aussi intéressant et important dans ce verset 31, c'est qu'il donne un autre motif. La première fois, c'était se comparer aux autres. Si les autres scandalisaient, moi je ne suis pas. Cette fois-ci, c'est quand il me faudrait mourir pour toi. Et alors, on le voit, au fond, le Seigneur, on voit Pierre en face de la mort, avec toute prétention, disant, moi, la mort, je ne crains pas. Alors, bien sûr, nous, en tant que chrétiens, nous avons l'habitude de dire que nous allons auprès auprès du Seigneur, que le Seigneur va revenir, il va nous prendre. Nous avons les certitudes de la résurrection, nous avons les consolations de 2 Corinthiens 5, il vaut mieux être présent avec le Seigneur et absent du corps. Mais c'est quand même, il faut faire attention avec, parce que, je dirais, à force de répéter ces espérances que je ne veux pas minimiser et qui sont importantes, à force de les répéter, on commence à dire bon, la mort, c'est rien du tout. Et c'est rien du tout, alors que dans Hébreux 2, il est quand même dit que c'est, je crois, Hébreux 2 ou un psaume, je ne me rappelle plus, c'est le roi des épouvantements. C'est quand même quelque chose de terrible. Et puis c'est la puissance de Satan qui s'exerce, disant que c'est quand même, il faut que nous nous rendions compte, et même les enfants parmi nous ici, il faut à la fois c'est bien de leur inculquer devant nous il y a l'avenir d'être au ciel avec le Seigneur, mais aussi la solennité de la mort. Et alors, devant cette obstination de Pierre, le Seigneur il a donné son avertissement en verset 30, ça suffit, et il n'en dit pas plus. Et c'est aussi solennel là, de se rendre compte que le Seigneur il a encouragé, il a averti, et Pierre y continue, obstiné. Alors ensuite, on a la scène de Gethsémané. Bon, je ne veux pas parler de la scène de Gethsémané en tant que le Seigneur, ce qu'elle représentait pour le Seigneur, et devançant les heures de ténèbres. C'est certainement le plus important de ce passage, mais ce n'est pas ce côté que je voudrais montrer aujourd'hui. Demeurer ici et éveiller. Alors, là encore, est-ce qu'on tient compte ou on ne tient pas compte? Alors lui, il va un peu plus loin et il priait, disant que les choses nous sont rapportées, mais les disciples, en un sens, c'est normal qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la profondeur des exercices du Seigneur. Le Seigneur revient. Verset 37, il les trouve dormants. Alors, on voit au fond, il y a eu une instruction. Demeurez ici éveillé, de nouveau, tiens pas compte, il dort. Bon, alors c'est vrai que c'était pendant la nuit, c'est vrai que toute la journée précédente avait été chargée, c'est vrai qu'il y avait de la fatigue, c'est vrai qu'il y avait l'inquiétude, peut-être un certain tourment devant l'incertitude de la situation, mais on pourrait dire peu importe. Le Seigneur a dit « Demeurez ici et veillez ». Alors l'important, c'est de tenir compte de ce qu'il a dit. Et alors, il dit à Pierre « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure ?» Alors, c'est comme si le Seigneur lui avait dit de veiller. Et puis là, c'est comme s'il prenait les choses doucement. Tu aurais quand même pu veiller un peu. On voit de ce côté-là une douceur du Seigneur, alors qu'il y avait un reproche fort à lui faire en lui disant « Mais attends, je t'avais dit de veiller, tu ferais bien d'écouter ce que je dis ». Alors on voit la douceur du Seigneur qui reprend, mais n'empêche qu'il reprend. Et puis ce coup-là, la première fois, il a simplement dit « Veiller », c'était l'instruction. La deuxième fois, il rajoute un avertissement. Veillez, verset 38, veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Alors là, c'est un peu comme la fois d'avant. La première fois, il y a un encouragement, la deuxième, il y a un avertissement. Et puis, il y a même un avertissement précisé. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Alors, il s'en va, il prie, il a de nouveau les mêmes paroles. S'étant retourné, il les trouva de nouveau dormants. Et ils ne savaient, leurs yeux étaient absentis. Mais d'accord, ils étaient absentis à cause de l'heure et de tout. Mais ce n'était pas suffisant comme raison, parce que le Seigneur avait dit, et l'important c'était de tenir compte de sa parole. Et alors, il ne savait pas quoi répondre. Alors, au verset 41, ça recommence. Puis cette fois-là, c'est « Dormez dorénavant, reposez-vous ». C'est parce que, au fond, lui a achevé la partie de l'œuvre qu'il avait à faire. « Gethsémané, dormez, bon. » Mais ce « dormez dorénavant », c'est un « dormez » qui, en un sens, est quand même terrible. Parce que c'est « j'ai tout fait pour que vous soyez dans la paix, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas été exercé. » Alors d'accord, reposez-vous, mais et le fils de et levez-vous. Alors, voilà, celui qui me livre est approché. Il n'a plus rien à dire cette fois. Mais combien c'est frappant et solennel que le Seigneur fait passer par des circonstances, et il faut être attentif à ce par quoi il nous fait passer et à ce qu'il nous dit. Alors, après, j'ai lu directement le passage quand Pierre renie le Seigneur. Alors, ce qui est frappant dans ce passage, c'est qu'est-ce qui a amené Pierre à renier le Seigneur. La première fois, c'est une femme qui dit, et une femme pas d'importance, c'était juste une servante, elle lui dit, mais toi tu étais avec ces gens, tu étais avec Jésus, il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas de d'accusation, il n'y avait pas de dire je vais te dénoncer ou tu vas voir ce qu'on va te faire, non. Et il dit simplement, tu étais avec lui. Alors, ce qui frappe dans cette chose, c'est de voir Pierre qui prend peur et puis qui se met donc à nier, à dire un gros mensonge. Et puis, le coq chante. Premier avertissement, il n'en tient pas compte. Et puis ensuite, c'est apparemment la même servante, mais et qui se met à dire, la deuxième fois, elle dit, celui-ci est de ces gens-là. Ça va un tout petit peu plus loin, c'est comme s'il faisait partie de ce groupe. Mais de nouveau, c'est même pas une phrase qui menace. C'est juste, on signale qu'il fait partie des gens qui suivent le Seigneur. Et rien que ça, l'idée que on le signale comme suivant le Seigneur, c'est ça qui, de nouveau, l'amène à nier. Et puis donc, la troisième fois, il est dit, car aussi tu es galiléen, c'est dans les autres évangiles qu'il est dit qu'il le reconnaissait à son accent, ce qui est d'ailleurs très, très frappant de voir que simplement à cause de cette façon de parler, il a pris peur devant tout ça. Et puis à ce moment-là, c'est donc pas seulement une négation, mais une négation non seulement avec un mensonge, mais avec des imprécations et des jurements. Disons, on est frappé de voir le Pierre qui tombe si bas, mais on est frappé qu'il tombe si bas avec quelque chose qui n'est même pas une vraie menace, simplement la pensée d'être associé au Seigneur et qu'on le sache, et c'est ça qui l'a fait peur. Mais au fond, ce qui frappe, c'est la liaison entre cette faiblesse extrême devant des circonstances qui n'avaient pas de quoi faire peur, précédemment, on a vu qu'il n'avait pas tenu compte ni de ce que l'Écriture disait, les brebis seront dispersées, ni de ce que le Seigneur annonçait sa résurrection, ni de ce que le Seigneur lui disait de veiller, et il l'a répété trois fois. Alors on voit ces choses où le Seigneur qui nous fait passer par des circonstances, il nous donne tous les secours et les soutiens qui sont nécessaires, mais encore faut-il être attentif à ne pas prendre les circonstances à la légère, attentif à ce que dit l'Écriture, attentif à ce que dit le Seigneur, disons qu'une fois, si vraiment on suit comme ça le Seigneur, mais on n'a pas de quoi être effrayé par simplement une bonne femme qui dit « mais celui-là, il suit le Seigneur ». Le contraste est fort. Alors, le contraste, il est encore plus fort quand on pense là, ce qu'on a vu au début avec Marie de Béthanie, là, au début du chapitre 14. Ou alors, là, quand il y en a un qui dit, mais qu'on aurait dû, on n'aurait pas dû gâcher ce parfum, alors là, ils écoutent tous. Ils écoutent tous et ils se mettent tous à faire passer l'humanitaire avant le Seigneur et à s'occuper des pauvres alors qu'il ne plus s'occuper du Seigneur. Alors, on voit que alors ils ont tenu compte, mais ils ont tenu compte de celui qui murmurait, de celui qui initiait des protestations, mais tenir compte de ce que le Seigneur dit de la parole, eh bien ça, ils n'en tiennent pas compte, et le résultat, on le voit. Qu'il nous soit donné de pas prendre les circonstances que le Seigneur nous fait traverser, de pas les prendre à la légère, et parce que il sait tout. Je rappelle ce qu'on a, les versets 12 à 16, la préparation de la Pâque. Il sait tous les détails où il veut nous faire passer, et les brebis seront dispersées. Il le sait aussi. Bon, alors on lui remet tout. On lui remet tout. Alors, on pourrait donner un coup d'œil à ce moment-là au chapitre 16. Chapitre 16, le Seigneur est mort, est crucifié, la résurrection, le Seigneur a été mis au tombeau. Chapitre 16. Le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. De fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre, comme le Seigneur se levait, et elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre? Et, ayant regardé, elles voient que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Alors, nous lisons, nous avons l'habitude de lire ces passages, et puis nous les lisons comme si c'était quelque chose de très très normal et très naturel. Mais en réalité, le Seigneur, il avait bien dit qu'il ressusciterait. Nous avons lu simplement un verset dans le chapitre 14, mais il l'avait dit plusieurs fois avant. Il avait annoncé sa mort et tout, et sa résurrection. Il avait même dit au bout de trois jours. En sorte que, qu'on le veuille ou non, le fait d'aller acheter les aromates pour l'embaumer, c'était déjà une action d'incrédulité. Alors, Elles se font du souci. Souci, pareil, c'est à tort, parce que même le Seigneur ressuscité, il n'allait pas rester dans le tombeau fermé. Elles voient la pierre rouler. Elles en déduisent rien du tout. Et elles font pas la relation avec le fait que le Seigneur avait annoncé la résurrection. Alors, verset 5. « Étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, c'est donc un ange, et elles s'épouvantèrent. » Alors là, frappant, on retrouve des choses un peu comme il est arrivé à Pierre. On n'a pas tenu compte de ce qu'a annoncé la parole. Et alors, au lieu d'être amené à se réjouir, on prend peur. Elles s'épouvantèrent. Il n'y avait pas de quoi s'épouvanter. Il y avait un ange qui était là et qui marquait la victoire sur la résurrection. Alors le Seigneur n'était pas là, oui, mais il y avait, c'était conforme à ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il allait les retrouver en Galilée. Et là, l'ange le répète au verset 7, « Allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Alors, une fois de plus, on est frappé. Le Seigneur a tout dit, il a tout annoncé, il a pris soin de tout, et puis, on n'écoute pas, on n'en tient pas compte et on prend peur. Ah, ils s'enfuirent. Bon. Et le tremblement, le trouble les avait saisis, il y a une insistance sur la... C'est pas juste qu'elles avaient eu un peu peur, mais elles étaient vraiment bouleversées. Alors, elle ne dit rien à personne car elles avaient peur. Bon, ça c'est, il ne faut pas, je dirais, il y a un problème de concordance des différents évangiles, mais dont il ne faut pas en faire monter ça en épingle comme s'il y avait des contradictions, parce que en fait, dans cette matinée de la résurrection, il y a des tas d'allées et venues. Les uns sont venus, et les distances n'étaient pas grandes. Ils sont allés, ils sont venus, ils ont parlé entre eux, ils sont revenus, et certains évangiles font allusion à certains faits, d'autres à d'autres faits. Les choses, il ne faut pas aller faire se contredire les choses. Et là, ça continue. Verset 9, « Étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » Bon, et s'en allant, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui. Alors c'est assez frappant, d'ailleurs les autres ont eu peur, mais elle n'a pas eu peur. Et puis, elle n'a pas eu peur, et c'est la parole qui prend soin de souligner que c'était celle dont le Seigneur avait chassé sept démons. Alors, cette mention-là, elle souligne parce que toute cette affaire de la crucifixion du Seigneur et de sa résurrection n'était pas une victoire de Satan. Disons que on avait regardait les choses du point de vue des hommes, effectivement, on voyait le Seigneur, 3 ans et demi de mystère, des miracles, et finalement crucifié, rejeté, et l'annonce du royaume des cieux, ben, c'était pas accompli. Alors on dirait, ben, il a tout perdu. Mais en fait, rien du tout. Mais comment on pouvait le savoir? Mais on pouvait le savoir en tenant compte de ce qu'il avait dit. Et alors, au fond, ce verset-là qui dit que c'est Marie de laquelle il avait chassé sept démons, c'est une façon de dire, mais le Seigneur, il n'a pas changé. Sa puissance contre l'ennemi, elle n'a pas changé. L'ennemi et l'énergie de l'ennemi pour faire du mal, elle n'a pas changé. Mais le Seigneur, il est victorieux. Il avait chassé, et bien, il continue à être celui qui est le vainqueur. Alors, elle s'en va, et elle arrive vers les autres, verset 10, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Alors, voilà, le Seigneur qui a annoncé sa résurrection, les unes sont bouleversées de peur, les autres sont dans le deuil, ils pleurent tout à l'envers. Alors c'est très frappant de voir que de voir les effets, on peut dire, de l'incrédulité. Mais quand je parle d'incrédulité, c'est pas une incrédulité d'incrédule, de non-croyant. C'était tout des croyants, ça. C'était tout des gens qui avaient suivi le Seigneur, qui l'avaient aimé, qui avaient cru en lui. Et voilà qu'ils ils sont incrédules devant ce que le Seigneur, devant ce qui a été fait. Et pourtant, c'est la parole qu'il avait dit. Alors, verset 12. « Après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux. » Bon, c'est les disciples d'Emmaüs, c'est Luc qui en parle. « Ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais ils ne crurent pas cela non plus. » Verset 13. Alors, ce qui est frappant là, c'est un fait qui a été annoncé. Voilà des disciples, c'est une bonne chose, ils en parlent entre eux. Il y en a qui confirment, qui disent « mais oui, et on l'a vu ». Et puis, disons que ça nous parle que ce qui peut nous arriver de semblable à nous, c'est que on connaît l'Écriture, on sait ce qui va arriver, même sur toutes les questions prophétiques, le devenir de l'Église, l'enlèvement, le devenir du monde, tout, ça nous est tout dit à l'avance, on sait tout. Il n'y a aucune raison de se tourmenter. Et là, ils en parlent même, et même en parlant, ils en parlent d'une façon que finalement c'est l'incrédulité qui prévaut. Au lieu d'accepter ce que le Seigneur a dit et de s'en réjouir, eh bien non. Et alors, verset 14, il apparaît aux 11, il leur reproche leur incrédulité. Le Seigneur, jusqu'à présent, il avait dit beaucoup d'encouragement, mais c'est un peu comme Pierre, Simon, tu n'as pas pu veiller une heure. Là, il leur reproche. Alors, il leur reproche leur incrédulité et puis leur dureté de cœur. Dureté de cœur, il est bien dit, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors, la phrase est frappante parce que on aurait pu dire, mais d'accord, les paroles du Seigneur qui annonçait sa résurrection, soit ils l'avaient oublié, soit ils n'en avaient pas compris la portée. Alors, admettons qu'ils aient eu de la peine à croire la résurrection parce qu'ils avaient oublié ces paroles. Mais là, c'est pire. Il y avait ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il y en a qui l'ont vu, les disciples d'Emmaüs, ils avaient mangé avec lui, ils avaient été avec lui, il avait prié, il avait rompu le pain devant eux, ils l'avaient vu. Et bien, avec tout ça, ils croient toujours pas. Alors, c'est très frappant de voir à la fois les soins du Seigneur, à la fois tous les ressources qui nous donnent, et à la fois une incrédulité, mais je répète, c'est pas une incrédulité de non-croyant, c'est une incrédulité de croyant. On a de la peine à dire cela. Et puis alors, le verset 15 est presque encore plus étonnant. « Allez donc dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Alors ça, c'est presque le plus étonnant. Voilà que des disciples qui sont marqués par l'incrédulité, le Seigneur leur fait des reproches, il leur dit qu'ils sont durs de cœur parce qu'ils n'ont pas cru, et leur dit « Allez donc et prêchez l'évangile à toute la création. » Alors on aurait pu dire « c'est vraiment les derniers qui auraient été capables de prêcher quelque chose de bon ou de prêcher l'évangile. » Et le Seigneur, c'est cela qu'il envoie. Et alors, celui qui aura cru, qui aura été baptisé, sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Bon, il y a ce fait du baptême qui est, au fond, c'est étonné, c'est comme si le baptême était nécessaire au salut. Mais au fond, c'est une façon de dire, c'est quelqu'un qui refuse le baptême, ben c'est quelqu'un qui persiste dans son incrédulité. Alors c'est pour ça qu'il sera, il sera condamné. Et puis, il leur donne, et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il leur donne des signes. En premier lieu, il y a les chasser les démons, parler en langue. Mais alors, pourquoi ça vient? Alors, bien sûr, c'est les signes qu'on a mis en relief pour dire qu'il faut que tout le monde parle en langue et tout. Mais pourquoi le Seigneur en parle de ça? Mais c'est parce qu'il envoie ces gens qui sont des juifs, qui ne parlent que leur langue, ou l'hébreu ou l'araméen, et c'est tout, et il leur dit d'aller dans tout le monde pour prêcher l'évangile. Alors, ce coup-là, ils auraient pu dire, bien, alors là, on n'a pas les ressources, et on est totalement incapable. Et ils disent, mais on est incapable, on ne sait pas parler la langue des gens où tu nous envoies. Et là, c'est au fond une façon de dire, mais moi, je pourvoirai. Si je vous envoie ailleurs, vous aurez les ressources. Vous parlerez en langue. Puis elle dit, mais il y a des opposants, il y a des démons. Pas de problème, les démons seront chassés. Il y a des serpents, pas de problème, on les prend, ils ne piquent pas. Il y aura des poisons, et pas de problème, vous boirez du mortel, il ne nuira pas. Alors le Seigneur envoie, il donne toutes les ressources, mais encore une fois, il faut écouter. Il faut écouter, il faut croire ce qu'il a dit, et il ne faut pas être marqué par l'incrédulité. Alors, l'œuvre, elle se fait, ils partent, c'est le verset 20, ils partent, ils prêchent et le Seigneur coopère. Bien qu'il nous soit donné de bien être toujours persuadé du Seigneur qui s'occupe de tout, qui connaît tout, qui nous conduise, et puis qu'on soit toujours plus attentif à ce qu'il a dit.
«